À bout de souffle. Une émission sur la danse contemporaine. Lors du festival transchorégraphique organisé à Tours par le Centre chorégraphique national de Tours, nous avons pu redécouvrir le travail de Katerina Sagna. Chorégraphe, elle présentait à Tours Exercice spirituel, une reprise d'un spectacle qu'elle a créé en 1998. Il y a quelque temps, nous avons déjà pu découvrir son travail avec le spectacle Basso Ostinato. Nous vous proposons d'écouter un entretien réalisé avec Katerina Sagna.
Bonjour. Vous présentez ce soir Exercice spirituel. L'année dernière, vous avez présenté à Tours Basso Ostinato. Cette chorégraphie posait la question de la matérialité du corps, de la finitude de l'homme. Certes, il faut bien mourir, mais comment l'accepter ? Le danseur est face à l'entropie, dont par ailleurs Paul Valéry l'écrivait avec un A. Cette pièce est travaillée par la question de la répétition qui, au fur et à mesure de la durée, s'altère. Les anecdotes se morcellent et apparaissent syncopées, les gestes échappent, le mouvement s'épuise, les corps perdent leur place, puis s'écroulent sous le poids de la vie. Votre traverse chorégraphique touche à la question du texte, Kafka, Paul Valéry, Genet, et Exercice spirituel trouve sa poussée dans un texte de Barthes à propos de Loyola.
Alors ce texte de Roland Barthes, on a réussi à se le procurer dernière minute hier soir, dans un super libraire à Tours, rappelé à la librairie Le Livre, qui a réussi à nous donner ce texte, alors on l'a lu. Et Roland Barthes rapproche donc l'écriture de Loyola avec celle de Sade et de Fourier. Pour lui, il s'agit pour chacun d'entre eux de fonder une nouvelle langue. Alors cette entreprise nécessite une méthode que Roland Barthes décompose en quatre moments. Alors, premièrement, l'isolement, pour que la langue nouvelle surgisse d'un vide matériel. Pour Loyola, aucun bruit, peu de lumière, la solitude. Supprimer toute interstice temporelle par laquelle pourrait revenir une parole extérieure. Deuxième opération, l'articulation. Loyola morcelle les signes du langage qu'il reprend dans une combinatoire. De même, il morcelle le corps vécu successivement par chacun des cinq sens. Tout est divisé, subdivisé, classé, numéroté. C'est ce qu'il appelle en fait le discernement. Troisièmement, l'ordonnancement, c'est-à-dire soumettre le tout à un ordre supérieur, qui ne serait plus la syntaxe, mais la métrique. L'ordonnateur ou le maître de cérémonie, pour Sade par exemple, n'est pas une personne qui règle l'exercice, selon Roland Barthes, mais plutôt l'ordonnateur comme un moment, un opérateur de phrase. Là vient la question de la répétition et de la variation. Et enfin, un quatrième moment qui est celui de théâtraliser, c'est-à-dire donner du volume à la platitude du style. Alors, Loyola développe un art de la mantique, alors par ses exercices spirituels, c'est-à-dire un art de la consultation divine. Cette langue prend la forme d'une structure interrogative, selon Roland Barthes, pour trouver la volonté de Dieu au lieu de l'accomplir. La question n'est donc pas « que faire ?», mais plutôt « faire ceci ou faire cela ?». L'exercice temps doit travailler à ne pas choisir, rendre le dilemme, l'alternative égale, clôturer l'alternative en quelque sorte, afin que l'ouverture, la marque, soit bien d'origine divine. L'œuvre de Loyola s'inscrit, selon Roland Barthes, toujours dans une problématique du signe et non de la perfection, car le champ des exercices est celui des signes échangés. Alors, la danse nous semblait en effet concernée par ce qui vient d'être dit. Tout d'abord, je pensais à Paul Valéry, pour qui la danse engendre son propre temps, son propre espace et son propre monde auquel il n'existe nulle extériorité. Également la problématique du signe et non de la perfection, je pense ici au propos de Jean-Luc Nancy qui a abordé dans Allitération lors d'un dialogue avec Mathilde Monnier la question de la danse comme produisant du sens hors du sens, soit une langue qui s'exprime pour elle-même. Enfin, le non-choix m'évoque également la dynamique des transferts de poids comme ce qui enclenche un mouvement. Et enfin, la métrique renvoie au rythme.
Comme nous l'avons annoncé, vous avez cheminé autour d'œuvres littéraires et nous voudrions savoir comment vous passez de l'écriture au mouvement, c'est-à-dire de l'inscription à l'inscription.
c'est un parcours qui vient dans moi, c'est-à-dire j'essaye d'écouter ce que résonne dans moi de l'écriture et j'essaye à partir de cette sensation de la traduire en mouvement pour donner quelque chose de semblable. Mais avec un autre langage, à travers le corps. Donc c'est plutôt, ça passe à travers l'écoute de moi-même et ce que la littérature ou le texte donne en moi. Donc c'est plutôt, je pense que la partie la plus importante du processus, c'est pas intellectuel. Bien sûr, il y a aussi un travail intellectuel, enfin un travail de mouvement intellectuel, mais dans l'effort d'écouter plutôt la sensation que, ou l'émotion ou le sentiment qui est en train de naître en moi. Et à partir de ça, de trouver une façon de le traduire et de le proposer avec les corps, mon corps ou le corps de quelqu'un, ça dépend des spectacles, aux spectateurs, pour qu'ils puissent, à travers leur sensibilité, avoir une perception en connexion avec ce que j'ai ressenti. Évidemment, ça peut être différent pour chacun d'eux, mais mon tentative, c'est de re-exprimer la même chose que j'ai ressenti en lisant.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que donc, on n'a pas lu le texte hein, de Loyola, Exercice spirituel, on a lu que le commentaire qu'en fait Roland Barthes, mais il parle un moment d'une tentative de retourner à la matière. Et ce que vous dites sur travailler sur le texte, le ressenti, ça m'évoque la question de travailler sur comment le texte vibre, c'est-à-dire plus travailler sur la textualité dans sa matérialité sonore et comment il vibre dans le corps qu'effectivement la dynamique peut-être trop spirituelle. Et en ça, il y a quelque chose de matériel. Et d'ailleurs, Roland Barthes parle d'un rite matérialiste.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est ce que accroche dans moi, ça peut être très différent aussi d'une pièce à l'autre, d'un texte à l'autre. Des fois, c'est même qu'un mot, ou quelques mots, disons, ou une phrase. Et des fois, c'est quelque chose qui correspond plus à la totalité de l'œuvre qui reste et que c'est difficile à expliquer avec des mots précis parce que c'est une sensation assez vague, surtout au départ du travail. Et puis petit à petit, se focalise, moi j'ai envie de dire, toute seule. Donc au bout d'un moment, une fois que c'est clair ce que j'ai ressenti, j'oublie le texte. Et je suis ce que cette sensation m'amène. Très souvent, à la fin du parcours, je m'aperçois, et surtout les gens s'aperçoivent, que ça correspond beaucoup au texte de départ. Mais moi, je l'oubliais entre-temps. Souvent, les gens, le public, les gens qui assistent, ils voient très clair le rapport avec le texte, alors que je l'oubliais. Souvent, je l'oublie.
Il y a quelque chose comme d'une visitation, c'est comme si l'auteur vous revenait, et qu'il y avait une visitation de l'auteur, et qu'en définitive, si ça peut rapprocher au texte, c'est comme s'il y avait une réécriture, en fait, de ce texte, mais par la visitation par fragment, par sensation ou par remémoration de éparse, quoi.
Oui, je pense que les œuvres, soit littéraires, soit n'importe quelles, je crois dans la communication entre l'œuvre et qui regarde ou lit ou assiste à l'œuvre. Donc c'est pas l'important pour moi, l'œuvre en soi, mais la communication entre l'œuvre et la personne qui assiste, je sais pas comment dire. Et donc pour moi, ce rapport est là pendant la lecture et je propose la même chose pendant le spectacle. Donc c'est important pour moi, j'ai mis du temps à comprendre ça, que c'était le point important, c'était pas mon spectacle, mais ce qui se passe entre mon spectacle et chaque spectateur. Et c'est vraiment ça qui pour moi est intéressant. Ça peut être dans n'importe quelle direction, ça peut être compris à des niveaux très différents, mais ce que m'aide à continuer, c'est justement la réponse à ce que je fais et pas la confirmation, je sais pas comment dire, pas la confirmation que c'est un bon travail, mais quand je sens qu'il y a quelque chose qui a touché et qui revient vers moi.
Oui, qui viendrait finalement marquer le spectacle, c'est-à-dire qui viendrait marquer la danse et du coup peut-être la différencier quoi, sur ce rapport comme si la danse ou le mouvement pouvait être altéré par le regard du spectateur ou pouvait en être modifié.
Bien sûr, parce que je crois que chacun lit et comprend les choses selon ses expériences précédent, actuel, et donc la même chose, il n'y a pas une réalité objective à mon avis, donc il y a autant de réalité quand il y a autant que personne, enfin, excusez-moi mon français qui est un peu, mais j'essaye d'expliquer, et donc évidemment la réalité que nous on voit, et on la voit parce que nous, on la voit de ce point de vue, avec tout nos, avec comme on est fait. Et ça, c'est différent pour chacun. Je ne sais pas si j'étais assez claire.
Toute la difficulté est de concevoir un spectacle qui puisse résister aussi à toutes les interprétations possibles, qui soit suffisamment clos et ouvert, en définitive,
bien
quelque
sûr,
part.
Oui. Oui, ça, c'est l'effort et c'est... Où, évidemment, on ne peut jamais être sûr de ça. La seule chose qu'on peut faire, c'est chercher cette justesse que tu dis dans soi-même. Parce que si on la trouve en soi-même, c'est le maximum, à mon avis, qu'on peut faire. Le reste, on n'est pas, en italien, on dit onnipotenti. On n'a pas le pouvoir sur les autres. Chacun a le droit on est chacun... Pas un niveau, ça donne une hiérarchie qui n'est pas juste, mais dans un endroit particulier. Donc, voilà.
Vous semblez à votre tour, comme l'a fait Paul Valéry et Paul Klee, poser la question du spirituel dans l'art. Pour vous, l'exercice est danser, et à travers votre danse, vous posez ou reposez la question de l'homme et de sa quête spirituelle. Est-ce que vous avez besoin... Pourquoi vous avez besoin de rejouer cette pièce, surtout après Basso Ostinato, où justement il y avait une altération de la matérialité du corps?
Et c'est un défi pas facile, parce que c'est une pièce que a été demandée plusieurs fois d'être reprise, et j'ai toujours refusé. Parce que après cette pièce, j'ai eu une période où je faisais des choses complètement différentes, vraiment très différent, très ouvert, très, très crié, alors que ça c'est plutôt à l'écoute plutôt que crier, je sais pas, pour résumer très vite ce que s'était passé, et je me sentais pas du tout, je n'avais pas envie, j'avais peur de ne pas retrouver à nouveau cet état, et avec Basso Ostinato justement, il y a eu une sorte, pas de retour, parce que retour ça donne à moi au moins l'image d'un pas en arrière, mais quand même une sorte de un cycle qui faisait une courbe qui me rapprochait à nouveau vers quelque chose comme exercice spirituel, et donc j'ai voulu face à moi-même accepter ce défi. C'était juste, c'était un peu, j'avais très peur de ne pas réussir, parce que 10 ans sont passés, et je sais que dans cette pièce il y a quelque chose de très important pour moi, mais en même temps j'ai changé, évidemment il y a des choses qui se sont passées, donc je savais pas si j'étais capable encore à reprendre la pièce, et finalement je suis très content de ce que s'est passé. C'est un peu différent. La pièce, la structure est la même. C'est juste la façon à moi d'être sur scène que je sens, j'ai l'impression que c'est différent. Évidemment, je ne me vois pas de l'extérieur, mais je sens moi-même c'est beaucoup plus ouvert qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était plus un effort de concentration. Donc, il y avait une sorte de lutte à ne pas quitter une certaine qualité de concentration. Et là, l'effort, c'est de ne pas faire des efforts. Moi, c'est un peu un paradoxe, mais c'est vrai. C'est vraiment ouvrir et être dans cet état tout le long de la pièce, et sans effort, sans fatigue. Sans, c'est pas une lutte, c'est un cadeau. C'est pas comme un cadeau qui... C'est très agréable quand ça arrive. Et, j'espère d'arriver.
Sur la question de l'ouvert, dans la pièce qu'on a visionnée, vous semblez partir du mouvement le plus petit, minimum, pour chercher de l'amplitude. Par l'effet de répétition, vous cherchez comme une amplitude qui viendrait ouvrir l'espace pour que tout le corps finisse par s'ouvrir jusqu'à sa disparition matérielle.
Oui, oui, c'est ça. Je me souviens quand j'ai commencé, j'étais très touchée par le texte, par l'obsessivité du texte de Loyola, et qui c'est une sorte de spirale qu'on a l'impression où il n'y a pas de fin finalement. C'est-à-dire, il disait, par exemple, il y a plusieurs choses par rapport à la prière. Il disait de commencer à prier en disant dans n'importe quelle prière, Padre Nostro, hein, un mot à la fois. Donc on dit un mot, Padre, et puis c'est tout. Et on réfléchit et on laisse le temps que ce mot ressonne dans toi et que tu le comprends. Après tu dis le deuxième mot. Et j'étais très fascinée par cette proposition, je dirais, et j'ai construit je suis partie de là aussi pour le mouvement, donc avec un petit, parce que un mot c'est juste, c'est très grand, mais en même temps c'est très, il faut trouver, il a l'air limité, mais si on l'écoute, il prend de plus en plus d'ampleur, et donc c'est aussi un peu ça que je fais avec le mouvement. Et la répétition aussi, de répéter, mais c'est très, presque banal, je trouve. Pour apprendre n'importe quoi, on fait ça. Et on fait des exercices. Donc, on fait une chose, on se trompe, on le refait, on se trompe, on le refait, puis on le fait plus vite, jusqu'à quand on est prêt à passer à un autre exercice, à une étape suivante. Et la pièce est tout simplement construite comme ça. La structure c'est très simple, puis après il y a aussi évidemment d'autres éléments, mais
c'est comme cette idée de s'arrêter sur un mot fait penser à une idée d'épuisement du sens du mot, mais l'épuiser non pas, enfin, dans une dynamique de toutes ses possibilités, mais là où il disparaîtrait, c'est que effectivement dans son amplitude il deviendrait tellement important qu'il occuperait tout l'espace, et occupant tout l'espace, il devient le tout, enfin il disparaîtrait, quoi.
Bien sûr, tout à fait, oui.
C'est une sorte d'épuisement inversé d'un autre épuisement qui serait celui de l'épuiser par le minimaliste, c'est-à-dire d'aller plutôt vers l'amplitude au petit. Là, il s'agit plutôt d'aller au petit, à son amplitude, et ce qui ferait de lui un astre, quoi.
Oui, mais à la fin, c'est la même chose, parce que s'épuise même dans la grandeur, c'est pas... À un moment, on ne peut plus... Il faut faire quelque chose d'autre, parce que sinon, on va catharse, on est bloqué.
Et c'est vrai que sur votre danse, on sent... Bon, sur le encore une fois, hein, c'est le spectacle qui date de 1998. Hein, il ne s'agit pas de la recréation qu'on a pu visionner. Mais on sent bien que les mouvements... Les différents moments en fait du spectacle, quand il y a un nouveau mouvement, c'est parce que le précédent est épuisé.
Oui.
Il a pris un épuisement, et c'est ce qui permet d'enclencher sur le deuxième temps.
Oui, oui, et sans fracture entre un passage et l'autre, parce que c'est vraiment comme si le mouvement, à fur et à mesure d'être répété ou grandi ou en grandissant, amène toute seule vers un autre mouvement, vers une autre série, vers un autre exercice. Oui.
Oui, et d'ailleurs, on sent que le corps est projeté dans cet autre temps, à plusieurs reprises.
Oui, il se retrouve dans un autre lieu, dans un autre espace, et voilà, et continue le chemin. Ouais.
Alors, par rapport à la question de la spiritualité, qui est une question aussi qui a souvent été abordée avec la question du mysticisme. Mais vous semblez refuser le mysticisme pour la question de l'orthodoxie, qui viendrait amener un mouvement convulsif. Vous cherchez à éviter la crispation du mouvement et à toujours voir comment on peut être souple pour arriver à cet ailleurs.
Oui, il faut dire que c'était une peur assez grande, surtout il y a 10 ans, et surtout parce que je suis italienne, donc je vis dans un pays où la religion est très présente, donc j'avais très peur d'être mal compris, parce que en faisant des exercices spirituels, donc j'avais peur à parler du mysticisme, et en même temps je voulais parler de ça, de quelque chose de sacré, que enfin, c'est un discours trop long peut-être à faire maintenant, mais j'avais très peur d'être tout de suite cataloguée comme coincée dans les limites d'une certaine religion qui est tout hyper loin, vraiment très très loin de moi, et donc c'était pas du tout ça, mais donc c'est finalement, c'était vraiment pas un problème à moi, ça, le problème de rapport avec une certaine spiritualité. Mais c'était une peur que j'avais face à l'extérieur. Donc, j'essayais de me défendre par rapport à ça avec les mots. Et maintenant, je sens pas ce besoin. C'est fini. Au contraire, je pense qu'il a donné un peu de confusion, parce que d'un côté, je refusais ça, et de l'autre côté, je le faisais sous scène. Donc, parce que finalement, c'est ça. C'est difficile de parler du sacré, mais je pense qu'il y a, disons, un mystère qui envahit les choses, et c'est même pas la question, à mon avis, d'y croire ou ne pas croire. Il est là, comme dans l'art. Et c'est pour ça que je disais, ce n'est pas c'est d'après les exercices spirituels, mais c'est pas de la mystique. Je ne veux pas parler du divin ou de. Je ne veux pas prendre comme modèle, comme Loyola, il prend la vie de Jésus. C'est pas ça qui m'intéresse, mais c'est un discours plus général où de avoir un modèle à suivre, et pour moi sur scène c'est la peinture, les toiles qui sont là, donc j'essaye avec mon corps qui est en mouvement et de suivre et de me confondre avec ce modèle qui est complètement différent, c'est des toiles immobiles, sans pendu, et le travail c'était comment me fondre avec ça, voilà. Comme pour Ignazio di Loyola, c'était suivre la vie de Jésus comme modèle. Et je ne voulais pas que les gens confondaient les deux choses. C'est pas que je ne veux pas. C'est pas la vie de Jésus qui est mon modèle, mais le concept d'avoir un modèle à suivre.
Cette difficulté d'ailleurs là de pouvoir être dans un travail d'une recherche spirituelle, en tout cas d'une quête spirituelle, sans pour autant le raccrocher à une religion, c'est une problématique bataillienne, hein, qui est propre à la question de l'expérience intérieure chez Bataille, qui a souvent été raccroché à un certain mysticisme, alors qu'il s'en dégage, qu'il lui-même demande à pouvoir. En fait, c'est a-t-on le droit à une expérience intérieure, à une quête spirituelle qui ne soit pas inféodée, orthodoxe et rattachée à une religion ?
Exact.
Et c'est vrai que nous sommes dans une époque qui refuse la question spirituelle parce que très souvent confondue à la question de la religion. Quoi.
Oui, exact. Oui. Mais en même temps, je sens que j'ai l'impression, ou peut-être c'est que dans moi qu'il y a ça, donc je le vois à l'extérieur aussi, mais quand même qu'il y a de plus en plus une nécessité à nouveau de ça. Nécessité, une envie, je ne sais pas, un besoin de retrouver un peu le point, ce point-là, pour continuer. Après une phase très, ou, je sais pas comment dire, très matérielle, je disais, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes qui sont un peu perdues là-dedans. Donc, pour retrouver, il y a plusieurs gens qui ont besoin de retrouver un centre, voilà, et de de partir de là, de repartir de là, de le retrouver, de agir en partant de là et pas s'éparpiller partout dans ce qu'on appelle la réalité, que c'est assez limité, elle aussi, évidemment.
Non, c'est vrai que sur cette question de d'une matérialité excessive, ça me fait penser à une phrase de Nietzsche, le désert croît, c'est-à-dire on a à la fois un trop-plein, il y a comme un trop-plein de matérialité, de choses, et qu'à la fois dans ce trop-plein croît un désert, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal, plus il y a, et plus ça paraît désertique, c'est-à-dire moins justement on peut se retrouver dans un centre, dans un point dans lequel on peut s'exprimer, où on peut répartir en fait. Le problème de ce trop-plein fait qu'il n'y aurait plus de lieu à partir d'où.
Oui, il n'y a plus d'espace pour se retrouver. C'est facile de se perdre, je pense, parce que... Enfin, de se perdre, on se perd peut-être jamais, mais d'être confondu. Voilà, de se confondre.
Est-ce que cette pièce est une façon de traverser l'existence par rapport au sacré, et puis à Basso Ostinato, où les trois danseurs, en fait, perdaient leur énergie au fur et à mesure. Par rapport au fait d'affronter la mort, en fait, de se poser la question « il faut bien mourir », est-ce que cette pièce, dans sa recherche spirituelle, de dématérialisation aussi du corps à la fin, amène à un plus de vie ?
Je pense... Je dirais oui, mais j'essaie d'expliquer ce que je veux dire avec la différence que je sens en ce moment, qui me semble important entre Basso Ostinato et Exercice, c'est que Basso Ostinato traverse la mort, alors que Exercice, pour moi, n'a rien à voir avec la mort. C'est quelque chose, je ne sais pas si je réponds, si j'ai bien compris ta question, mais c'est vrai, il y a un moment où je disparais, c'est très spirituel, ça peut être, je sais pas, lu dans différents, je veux pas faire des exemples parce que mes frères, je sais pas, je suppose l'âme ou des trucs comme ça qui n'ont rien à voir, enfin, que c'est pas, mais je me suis pas focalisée sur ça. Et pour moi, c'est quelque chose qui est au-delà du matériel. Donc, il n'a rien à voir avec la mort. Alors qu'en Basso Ostinato, tout est, comme tu disais tout à l'heure, très matériel. Ça part de la matière et c'est une décomposition qui n'est pas seulement matérielle, mais qui touche surtout la matière. Donc, et je crois que la grosse différence est vraiment ça dans le monde spirituel et matériel. Évidemment, les deux choses vont ensemble, sont importantes tous les deux. Et il existe les deux. Je ne sais pas s'il y a une hiérarchie ou pas, ce qui est plus important. Parce que si on a ni l'un ou l'autre, on ne peut pas aller... On peut aller nulle part, je pense. Mais ils sont des choses complémentaires ensemble et très différentes. Et donc, pour l'exercice spirituel, je peux dire que, bien sûr, j'ai l'impression de traverser l'existence, me semble que tu avais dit. Mais qu'est-ce que ne le fait pas ? Chaque chose qu'on fait, à mon avis, s'occupe de ça chaque spectacle, chaque... tout le temps, on peut dire, à mon avis, qu'on fait ça parce qu'on le fait, parce qu'on est là et on traverse l'existence, je pense. Et donc, évidemment, il me semble de dire oui, c'est difficile pour moi savoir exactement ce qu'on veut dire pour ça, parce que de fait, on le fait. On est là à traverser notre existence pas à pas, donc bien sûr avec cette pièce aussi.
se pensi che gli anni non andrà a finire, bisogna morire, bisogna morire, bisogna morire. È un sogno la vita che passi gradita, è breve.
On est habitué maintenant avec le centre chorégraphique de Tours où on a une programmation avec des artistes étrangers qui viennent de l'étranger. Hier, par exemple, nous avons eu un spectacle figure de Germaina Silvana, qui est une danseuse espagnole. Alors, vous venez d'Italie et j'ai envie là de vous poser peut-être une question un peu générale, mais un peu de comment se porte la danse en Italie et la danse contemporaine en Italie, qu'est-ce qui fait qu'on vient en France et qu'on s'installe en France ?
C'est très très difficile la situation en Italie depuis toujours, c'est peut-être un peu exagéré, mais depuis que je m'en souviens. Donc c'est vraiment très difficile et j'ai eu la chance. C'est pas un choix, un choix stratégique, celle de venir en France, mais c'est une chance que j'ai eue. C'est-à-dire que depuis le premier spectacle que j'ai fait, j'ai eu la possibilité de le présenter par hasard à Paris, parce qu'il y avait une compagnie qui ne pouvait pas, et j'étais appelée au dernier moment. Et à partir de là, j'ai eu des articles et des théâtres intéressés, alors qu'en Italie, non. Jusqu'à il y a 2 ans, il faut être un peu plus précis, j'ai jamais eu des articles, par exemple, en Italie. Jamais. Et bon, c'est un exemple, mais c'est un peu tout comme ça. Les théâtres, je joue, je sais pas, une fois en Italie contre 20 en France. Évidemment, au bout d'un moment, j'ai dit, mais pourquoi ne pas devenir compagnie française? Parce que de toute façon, et je dis honnêtement que c'est peut-être aussi dans l'espoir de pouvoir retourner en Italie. Parce que j'ai l'impression, comme un peu partout, quand, chez soi, c'est plus difficile de s'affirmer comme. Et donc, peut-être le fait, si je m'éloigne bien clairement, peut-être après je peux être accueilli comme quelqu'un qui revient dans son pays. C'est vrai que ça fait un moment, ça commence à être tard, c'est 20 ans que je travaille. Mais bon, il y a toujours l'espoir qu'un jour, et petit à petit, peut-être pour moi, ça va un tout petit peu mieux, surtout parce que je n'ai pas trop besoin de l'Italie pour travailler.
C'est-à-dire que l'Italie n'est pas prête à recevoir une pluralité de propositions dansées. Il y a peut-être encore un classicisme fort.
Mais ça dépend qu'est-ce qu'on dit quand on parle d'Italie. Parce que le public est prêt, est archi prêt à tout. Moi, je trouve, j'ai jamais trouvé, le peu de fois que j'ai joué, j'ai jamais trouvé un public qui n'est pas prêt. Jamais, jamais, jamais. Le problème, c'est le système. Le système qui ne propose pas d'occasion, il a une peur très grande des choses différentes, il y a une gestion du pouvoir, à mon avis, très injuste, c'est vraiment le pouvoir, c'est-à-dire qui décide, pense que le public n'est pas prêt. Et ce n'est pas du tout vrai. C'est, évidemment, c'est eux qu'ils ont peur, donc, et en plus avec les années Berlusconi, il y a eu une croissance de performance commerciale, parce que il fallait faire comme ça pour survivre. Donc, les spectacles étaient programmés selon le nombre de spectateurs, donc plus c'était quelque chose de masse, plus il tournait. Et c'était une règle très simple, et donc évidemment pour les compagnies de recherche, il n'y avait plus d'espace. Il n'y a jamais eu d'argent, mais même plus d'espace, ça devient difficile.
C'était un entretien avec Caterina Sagna, réalisé lors du festival Transchorégraphique à Tours, à propos de 2 spectacles, Exercice spirituel et Basso ostinato.